ArcelorMittal. Heavy metal, politique, société, histoire. Salut, c'est ArcelorMittal. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro 22. Pour l'introduire, n'est-ce pas, ce numéro 22 et le thème qui va avec, je dirais que dans la vie, il y a certaines choses qui sont faciles. Par exemple, finir un stock de shortbread en regardant France-Écosse à la télé, ou bien encore trouver un homme politique victime innocente de l'acharnement médiatique. Tout ça, c'est très simple. Mais il y a encore plus simple. Trouver des morceaux de métal qui parlent des zombies. Le sportif intelligent évitant l'effort inutile, n'est-ce pas ? Merci professeur Mégot. Arcelor a donc tout naturellement pensé à consacrer son numéro 22 non aux flics, mais aux zombies. Malin, hein ? Amateur, critique et trouillard, hein, il faut bien le dire, de la série US Walking Dead, Maître Arcelor vous propose donc une lecture des péripéties de Daryl, Rick, Maggie ou des horribles gouverneurs, ou Negan encore pire, à travers le prisme de son esprit critique aiguisé à l'histoire, à la philosophie politique et au fromage. Car dans cette série, il est finalement bien davantage question des formes de la vie en société que de zombies tout moches et tout vilains, finalement. Même si des zombies tout moches et tout vilains, c'est comme la pomme dans la gnôle des tontons flingueurs. Il y en a aussi. En résumé, au lieu de spoiler la suite de la saison 7, comme tout le monde, Arcelor vous propose de comprendre le sens profond des 6 premières. Alors, ça c'était White Zombie avec le morceau I Zombie, donc tout à fait adapté au propos, puisque nous parlons aujourd'hui, je parle aujourd'hui de la série Walking Dead. Alors, le point de vue non renseigné sur Walking Dead, c'est à peu près, j'ai fait des tests scientifiques précis, ouais, encore un truc américain débile avec des zombies, un truc gore pour adolescents où c'est toujours pareil. Bien. Ce point de vue est parfaitement légitime et peut être exprimé, je suis ouvert et tolérant, enfin un petit peu. Mais en l'occurrence, le point de vue non renseigné que je viens de donner, ben, comme souvent avec les points de vue non renseignés, il n'est pas forcément le plus pertinent. Le pitch de Walking Dead, en gros, c'est effectivement une apocalypse zombie, il ne s'agit pas de se mentir. À partir, j'explique le principe, d'une morsure d'infecté, vous transformez en zombie, si c'est à vous que ça arrive, et vous devenez capable d'infecter par vous-même d'autres sujets sains. D'un point de vue citoyen, on pourrait dire que vous êtes à la fois électeur et éligible. Hein. Vous voyez, j'essaye tout de suite de raccrocher ça à la philosophie politique. Donc, le caractère aisé et spontané de la contamination fait que, assez rapidement, le bon fonctionnement de la société est très perturbé, vous voyez. Les trains n'arrivent plus à l'heure, même l'armée est dépassée, les marines se font bouffer, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas à conseiller aux végétariens, certes. Mais quelques groupes de survivants tentent de faire tout ce qu'il leur reste à faire, survivre, et éventuellement conserver une once d'humanité. Et c'est sur cet aspect survie et conservation d'un peu d'humanité qu'il va y avoir plein de choses intéressantes à observer. Les combats contre les zombies ne sont donc pas l'essentiel du propos, en tout cas au fur et à mesure que la série progresse, et ils deviennent donc même secondaires. En effet, prévisibles, hein, les créatures, les mordeurs, les rôdeurs, les zombies, sont finalement un prédateur beaucoup moins dangereux pour les survivants que les autres survivants eux-mêmes. Voilà. L'apocalypse zombie, c'est donc quelque chose qui ouvre sur les possibles de la vie en société. Et c'est intéressant parce que on est dans le registre de l'apocalypse laïque, hein, finalement, pas du tout l'apocalypse religieuse. Walking Dead, c'est une apocalypse loi 1905. Il n'y a pas de prophétie annonciatrice. Et la prophétie annonciatrice, eh bien, l'apocalypse sans prophétie annonciatrice, exactement, c'est à peu près le sens profond du morceau qui suit de Dimmu Borgir. Curse without prophecy. We'll be right back. Alors, nous venons d'écouter Dimmu Borgir, Chaos Without Prophecy, qui colle très très bien avec le thème d'aujourd'hui, Walking Dead, n'est-ce pas, le chaos sans prophétie, c'est exactement ce qui arrive à ces pauvres Américains qui, juste là, n'avaient que comme seul problème la couleur de leur prochain pick-up et savoir s'ils allaient voter démocrate ou républicain la prochaine fois. Ils se retrouvent donc avec des problèmes plus graves, ils doivent survivre, certains d'entre eux, assez rare, il faut le dire, y arrivent, mais enfin, ils sont quand même assez nombreux. Et comme je l'expliquais, le but, c'est pas de faire une émission fan club, le but, c'est bien, grâce à toute la science de Maître Arcelor, de montrer toute la portée politique et philosophique de cette série. Arrêtez de rigoler dans le fond, vous allez voir, c'est moi qui ai raison, une fois de plus. Vous savez bien que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. On dit « ah », et finalement, « ah ouais, c'est vrai, c'est pas con ce qu'il dit ». Eh oui, mais vous le savez, alors, s'il vous plaît. Bon, je vois que Flower Pop est entré dans le studio et qu'il a du mal à retenir son rire. Flower Pop, on règle ça juste un peu plus tard. Alors, la portée politique Walking Dead. Eh bien, nous nous retrouvons dans la saison 5 où les survivants, après diverses péripéties, se retrouvent dans une espèce de lotissement bobo chic durable, avec des maisons très très chères. Mais maintenant, l'argent n'a plus vraiment cours. Et ce lotissement a été fortifié, il est, on ne sait pas trop pourquoi, hein, parce qu'il y a une belle palissade, mais enfin c'est quand même bizarre, il est à l'abri des zombies, on va savoir pourquoi en fait après. Il est à l'abri des zombies et les survivants déjà installés ont mis en place un système de répartition des tâches qui est très intéressant parce qu'en fait il est marxiste. Hein. Ce qui fonctionne là, c'est la maxime de Marx, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. D'ailleurs, un des personnages de la série, pas du tout suspect d'être adhérent au NPA, dit « Tu vois, le communisme a fini par triompher ». Eh bien, c'est à peu près ce qui se passe. En fait, un micro-communisme, évidemment, qui n'a pas grand-chose à voir avec le système marxiste-léniniste de Khrouchtchev. Mais à une échelle réduite, on se retrouve donc avec un micro-communisme primitif qui est très intéressant. Et le même personnage qui constate le triomphe du micro-communisme dit en substance « c'est quand même formidable hein, que des gens d'horizons aussi divers, sans rien en commun, un ou deux ans auparavant, aient pu ainsi former une famille et vivre en commun ». Alors évidemment, c'est pas aussi idyllique et ça ne marche pas tout seul, mais c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que ce communisme primitif s'installe dans quelque chose qui est à l'opposé du communisme, c'est-à-dire l'habitat pavillonnaire. L'habitat pavillonnaire, très important aux États-Unis, il est intégré en lui-même au corps du récit. La visite de chaque habitation, isolée des autres, forcément, puisque c'est pavillonnaire, eh bien, est un enjeu dramatique, puisque est-elle déserte, ne l'est-elle pas ? Si elle ne l'est pas, il va falloir faire attention de ne pas se faire bouffer avant de s'asseoir dans le canapé. Et en même temps, on est obligé d'aller dedans à la recherche de vivres, de matériel ou d'un abri. Voilà. C'est donc, à ce titre-là, l'habitat pavillonnaire et la visite de l'habitat pavillonnaire, un pilier de l'existence des personnages et qui fait fortement avancer les intrigues. Des personnages qui ont très vite, d'ailleurs, déserté les grandes agglomérations, que ce soit Atlanta dans Walking Dead ou Los Angeles dans Fear the Walking Dead, le spin-off où ils partent au Mexique, qui est pas mal aussi. Alors, si on peut relier toutes les choses ensemble, comme moi seul suis capable de le faire, bien sûr, les zombies, considérons-les comme des morts-vivants, c'est objectif. En tant que morts-vivants, ils sont des oxymores, ils ne le savent pas, hein, et c'est pas à vous d'aller leur expliquer. Mais ce sont des morts-vivants, des vivants dégradés, dont la décomposition est comme stabilisée. Ils n'ont pas l'air, en fait, d'être partis pour mourir, à part de prendre manche pioche dans la tête. Et c'est intéressant, c'est que l'habitat pavillonnaire et à travers lui toute la société est comme zombifiée elle-même. Les belles façades, elles sont pas détruites comme dans le cas d'une apocalypse nucléaire, elles sont ternies, dégradées. Les jardiniers débordent un peu comme le foin de la charrette. Les cuisines intégrées de catalogue, elles sont en désordre, elles sont ensanglantées, elles sont poussiéreuses. Nous sommes dans une société, finalement, d'où l'arrangement paysagiste et ce qu'on pourrait appeler l'esthétique des esthéticiennes, a disparu. Tout de suite, In Flames, Zombie Incorporated. L'apocalypse a rebattu les cartes de la hiérarchie sociale dans Walking Dead. La zombification est exponentielle, puisque chaque couillon mordu peut à son tour mordre plusieurs autres malchanceux ou imprudents. La zombification ignore les classes sociales, le genre et la racisation. Elle est intergénérationnelle, elle est universelle. Achetez la zombification. Voilà un aspect très 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 intéressant, profondément et de façon dévastatrice égalitaire. La zombification est en effet quelque chose qui ne connaît ni frontières sociales, ni culturelles, ni quoi que ce soit. Du moment que vous êtes un être humain, vous êtes concerné. Et ça, c'est négatif, mais à la fois, c'est très intéressant, y compris d'un point de vue politique, puisque ça peut concerner n'importe quel être humain, ce qui, a priori, est l'enjeu de la politique également. Cet aspect de la zombification universelle. Il est très bien rendu dans une séquence qui est dans la saison 4, je crois, du Clubhouse. J'adore. Des survivants errent dans la forêt et finissent par atterrir sur un parcours de golf. Malin, ils se disent, il y a sûrement un Clubhouse avec des vivres et peut-être même du whisky, on va pouvoir prendre une cuite. Ce qui arrive, effectivement. Donc les survivants investissent le restaurant et le bar d'un parcours de golf. Et les zombies présents sur place sont fringués comme des héritiers républicains donc de la famille Ewing, un peu comme les cousins Trump réunis pour Noël, quoi. Alors c'est assez drôle, mais aussi très significatif. Le pognon ne protège pas longtemps des zombies et des mordeurs. Héhé. Ça, ça montre qu'on bascule dans un autre type de société. Une société sans argent. Une société où la révolution aurait été faite. C'est un peu spécial, c'est un peu détourné, mais c'est effectivement intéressant. Le monde fictionnel de Walking Dead nous montre une intéressante alternative à notre société actuelle qui se meurt, à mon avis, non des mordeurs affamés, pas encore en tout cas, mais des clivages et des murs entre groupes divers. Dans ce cadre, les survivants sont ceux qui savent s'organiser. Organize, c'était le slogan de certains anarchistes britanniques à une époque. Certains, hein, les autres étant contre l'organisation, évidemment. Les survivants sont ceux qui savent s'organiser. Et les dominants n'ont plus de carte bleue, ils ne sont plus les héritiers de quoi que ce soit. Dans le monde de Walking Dead, la sociologie de Pierre Bourdieu ne sert plus à rien. Du moins, tant que les nouvelles compétences valorisables dans le contexte n'ont pas structuré de nouveaux champs de pouvoir, et donc d'exercice de la violence et de la domination symbolique. Ah si, Bourdieu, en fait, ça marche encore, tiens. Tout de suite, dans cette idée-là, d'universalisme, voici Bloodbath, Unite in Pain. We'll be right back. dans Walking Dead, ce dont nous parlons aujourd'hui, comme on l'a dit, les cartes sociales ont été rebattues et les dominants d'hier ne sont plus du tout les dominants d'aujourd'hui, hein, si l'on se place dans le cadre de l'apocalypse zombie réalisé. Les dominants d'entre les survivants, bon, déjà pour être dominant il faut être survivant, et entre les survivants une hiérarchie se recrée qui n'est pas du tout... fondée donc sur les héritages passés, les fortunes accumulées, etc. Puisque, comme on dit, l'argent n'a plus cours, etc. En fait, les nouveaux dominants ont tous en commun de détenir une compétence spécifique qui leur permet, petit a, de survivre, petit b, de protéger d'autres personnes, petit c, par suite, de se rendre indispensable aux yeux des personnes qui protègent, petit d, de vivre avec, de dominer ces personnes s'ils le souhaitent. Le moment du choix, là, étant particulièrement intéressant et intrinsèquement politique, n'est-ce pas ? Donc, si l'on se réfère à Max Weber et à sa sociologie traditionnelle de l'organisation sociale, la structuration des groupes sociaux ainsi constitués dans Walking Dead balance, on peut dire, entre la domination traditionnelle, en gros celle du chef de tribu, et la domination charismatique, celle de la personnalité éclatante, qui jouit d'un ascendant presque infini aussi longtemps qu'elle apparaît infaillible. Et donc là, on retrouve les personnes aussi bien du méchant gouverneur que du gentil, presque toujours gentil, Rick. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la radio mondiale, eh bien, on va pouvoir faire une transition Max Weber, Ozzy Osbourne. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être arrivé à quelque chose. Hey, hey, and the zombie stomp. Ah, j'ai mis le micro là. J'ai mis le micro.
Ils sont de plus en plus. Avant, il n'y en avait pas autant par ici. Je me demande s'il y a des gens qui...
Ouais, il y a quelqu'un.
Voilà, donc une erreur de manipulation vous a permis de m'entendre chanter Ozzy Osbourne, n'est-ce pas, alors que je pensais que le micro n'était pas allumé. Eh bien, je le laisse, Arcelor, c'est la vérité du métal et la vérité de l'homme, et donc les erreurs en font partie. Je suis la somme de mes erreurs et de 2-3 autres trucs. Un philosophe important a dit ça, dès que je retrouve, je vous le dirai. Bien. Alors, reprenons. D'un point de vue institutionnel, Walking Dead propose une simulation de contre-société tout à fait intéressante, puisque les macro-institutions, rien à voir avec Emmanuel Macron, ont disparu, comme on l'a dit, mais les groupes de survivants, et c'est très intéressant, recréent immédiatement et spontanément des micro-institutions. Voilà. Les groupes doivent s'organiser, et ils le font dans des directions très différentes selon l'impulsion donnée par les éléments dominants. Communauté socialiste utopique sans le savoir, groupe fascisant ou paramilitaire, toutes les possibilités sont ouvertes, c'est merveilleux. Les héros positifs, le groupe principal, poursuit quant à lui un idéal de commune pragmatique et autorégulée. Le poids des responsabilités de chef et les attentes infinies à son égard du reste de son groupe pèsent ainsi lourdement à ce pauvre Rick Grimes, dont la femme décède assez rapidement, qui se retrouve avec un mioche sur les bras, en plus de son fils qui devient ado et pénible, enfin bon, ça fait beaucoup quoi. Et donc Rick Grimes, qui est le héros principal, ex-shérif de son état, dont on est sûr, quelle que soit la situation, qu'il va pas mourir, puisqu'on sait qu'il est toujours dans les saisons suivantes, abandonne peu à peu, et c'est très intéressant, son statut de leader, dans lequel tout le monde assez naturellement l'avait mis, pour faire entrer son groupe dans une démarche collégiale, égalitaire, où les décisions importantes sont prises entre pairs de façon démocratique. Et ça, c'est quand même intéressant à observer, parce qu'en fait, on voit après comment ça se passe. Voilà. Et donc après, quand on lit les programmes politiques des gens pour les élections municipales, vous voyez, en fait, ça serait possible, mais finalement... Enfin, voilà. Bon. Comment dire, on a un monde qui est un monde fantasmé, un monde impossible a priori, même si c'est pas impossible que la CIA ait imaginé un virus zombie et se prépare à l'inoculer à l'ensemble de la planète, mais on peut rien exclure, mais pour le moment c'est un monde disons illusoire qui permet en fait de projeter les pratiques politiques qui elles ne le sont pas, voilà ce que je voulais dire. Walking Dead explore d'autres choses, par exemple un possible de la décroissance. Ah, dans Walking Dead, les cartes bleues, les téléphones portables et Internet et compagnie, ça ne fonctionne plus. Trump et Bolloré n'ont plus de milliards, et on peut dire que 3 citrouilles, 5 litres d'eau et des munitions ont infiniment plus de valeur qu'une grosse liasse de billets verts. Voilà l'utopie écologique radicale enfin réalisée. Les embouteillages même, ils n'ont pas disparu, puisque les voitures abandonnées enchevêtrées jonchent les routes, mais même la bagnole est ramenée à sa pure valeur fonctionnelle, c'est vous dire, il n'y a même plus le mythe de la bagnole. Là aussi, du coup, les compétences valorisables sont redistribuées. Le jardinier ou la cuisinière reprennent sa place au trader dans la hiérarchie des talents les plus recherchés. Et dans les saisons 5 et 6, c'est très intéressant, il y a une politicienne survivante qui prend en charge la vie d'une communauté. Le lotissement est fortifié, j'en ai parlé avant, et on a l'impression que la sagesse de la politicienne, hein, ses compétences accumulées, a vraiment permis de créer un havre de paix. Et on se dit, ah, hein, vous voyez, hein, on dit du mal des politiciens. Mais tout ceci n'est qu'une illusion, le scénario est malin. Parce que la cité idéale, elle n'est préservée des rôdeurs qu'à cause d'un barrage... qui s'est formé par hasard dans une carrière avoisinante et où les zombies sont des milliers à s'agglutiner sans que les gens le sachent, jusqu'au moment où ils finissent par passer. Et dès lors, la cité régulée par les compétences politiciennes devient un gigantesque foutoir, je peux vous le dire. Leçon numéro 47, un politicien qui réussit, c'est un politicien qui réussit à en cacher un maximum sous le tapis. Et oui, la notion... est importante. Voilà. Donc, vous avez retenu la leçon numéro 47. Pour vous permettre de débriefer un petit peu tranquillement, prendre un peu de repos dans une approche assez zen. Voilà un groupe qui vient de San Diego, qui s'appelle Carnifex, et son morceau, il s'appelle Dehumanize. Après cet intermède yoga donné par Carnifex, n'est-ce pas ? Un autre aspect essentiel de Walking Dead, celui de la notion d'ennemi. La notion d'ennemi, elle est centrale dans Walking Dead, et en fait elle est centrale partout, quoi qu'en disent les pacifistes. Je m'explique. La notion d'ennemi doit être pensée au pluriel. Dans Walking Dead, l'ennemi numéro 1, immédiat, c'est le zombie lent et bête. Il marche en traînant la patte, Walking Dead ne se rattache pas à l'école du zombie qui sprint, ce que d'ailleurs je trouve très bien parce que le zombie qui sprint ça fait vite loup-garou, finalement c'est pas très intéressant. Le zombie il est lent et bête, et il marche en traînant la patte droit devant lui. Il est grégaire comme un consommateur dans un centre commercial, il traîne avec ses copains et ne devient vraiment redoutable qu'en horde de dizaines ou de centaines ou de milliers, alors là vous allez avoir chaud aux fesses, d'individus. Il est attiré par le bruit, la chaleur, la lumière et l'odeur des humains bien vivants, d'où une fâcheuse tendance à pourrir l'ambiance des soirées barbecue, il faut bien le dire. Pour éliminer le zombie, il faut viser la tête. Tant que vous n'avez pas compris ça, c'est difficile d'être un survivant. Vous pouvez lui envoyer tous les bastos que vous voulez dans le buffet, il meurt pas. Il faut un coup de tournevis, une balle, ce que vous voulez, dans la tête. Puisque cet ennemi mortel, avec lequel il est impossible de négocier quoi que ce soit, n'a gardé en fait que les fonctions cérébrales qui sont en gros, on va dire, de l'ordre du noyau du cerveau reptilien.
Eh, comme tous les mecs, hein.
Bon, écoutez les féministes primaires, laissez-moi continuer. Donc le zombie n'est pas toujours évident à tuer, en fait. Pas tellement parce que il peut vous tuer pendant que vous le tuez, c'est-à-dire de l'ordre du combat, non. C'est pas le combat, c'est surtout le passage à l'acte. On a deux situations dans le domaine d'un vétérinaire rural traditionnaliste, mais sympa, et dans une ville mexicaine où les morts ne sont pas tués mais parqués, hein, dans une grange ou dans un enclos, chez les Mexicains. L'idée sous-jacente à la ferme, c'est celle que la communauté entre les générations est étendue à la communauté entre êtres sains et infectés. Et au Mexique, c'est un peu les traditions afférentes au culte, à la fête des morts qui sont réactivées, renouvelées. Mais dans les deux cas, on a l'idée que les rôdeurs, les zombies, font encore partie de la communauté humaine. Et en fait, dans les deux cas, l'équilibre macabre va être rompu au bout d'un certain temps et les gens s'en rendent compte qu'en fait, ils sont debout mais ils sont morts. Donc du fait, disons-nous, du protocole d'infection lui-même, il peut être compliqué de tuer un zombie. En effet, on peut lui mettre un tournevis entre les deux yeux, hein, une fois qu'on a bien compris que c'était une menace, mais encore une fois, c'est pas cet acte-là qui est compliqué, puisque le sujet sain, s'il est mordu et s'il n'est pas dévoré sur le champ, évidemment il y a un minimum, il va développer une fièvre aiguë et mourir en quelques heures ou quelques jours, éventuellement entouré de ses proches ou de ses amis, dans le cadre en fait d'une agonie pathologique traditionnelle. Et donc, vu que ce cadre subsiste, avec tous ses aspects affectifs, l'attachement, la tristesse, le deuil qui vient, etc., eh bien, quand l'infecté finit par mourir de la fièvre et se réveille ensuite zombifié, hein, ça se voit au regard très, très rapidement, ils se sont vitreux en fait, ben, il faut alors le tuer, si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il devient une menace. Oui, mais son apparence étant inchangée, le cap peut être difficile à franchir d'un point de vue affectif. On reconnaît toujours son frère, sa mère, son ami, sa femme. Et il n'est pas évident d'y caler un tournevis entre les deux yeux. C'est pas facile. Pas facile non plus de savoir comment se comporter avec les autres survivants. Comme on l'a dit, certains groupes sont plutôt gentils et d'autres plutôt ou carrément méchants. Mais tous ont en commun, en tant que survivants, d'avoir commis des actes moralement répréhensibles. C'est le prix à payer pour être encore là, exactement comme à la guerre. Si certains pratiquent l'extermination systématique, même les plus vertueux ont pu faire le choix d'abandonner un des leurs dans une ville livrée à une horde pour sauver le reste du groupe. La survie implique des choix qu'il faut articuler avec le maintien d'une éthique minimale. D'autant que, autre élément intéressant, notamment pour les plus révolutionnaires d'entre nous, Walking Dead offre un monde d'où la police, l'armée et tous les moyens institutionnels de maintien de l'ordre ont définitivement disparu. Ah ah, que se passe-t-il ensuite ? C'est intéressant. Voilà. Et ça pose la question de la citoyenneté et de sa régulation. Voyez la question, les questions que pose Rick Grimes à chaque nouvel arrivant qui veut intégrer le groupe. Donc en gros, quiconque demanderait, on pourrait dire entre guillemets, la nationalité ou la citoyenneté, hein, puisqu'on est dans des micro-sociétés. Combien de marcheurs, il appelle ça les marcheurs, lui, avez-vous tué ? Combien de personnes avez-vous tué ? Et pourquoi ? Et selon les réponses à ces trois questions, la personne peut ou non être acceptée dans le groupe. Car, en effet, le choix de tuer doit toujours être tranché, soit de façon radicale, soit au cas par cas. Et Walking Dead présente tous les cas de figure possibles, du psychopathe sanguinaire à l'amateur d'aïkido, empathique et convaincu de la rédemption toujours possible. Enfin, presque toujours. Ici, c'est donc un impensé fondamental de beaucoup de pensées politiques, et révolutionnaires en particulier, qui est soulevé, celui du devenir de l'ennemi. Et là, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, car désigner l'ennemi, c'est une étape essentielle de la formation d'une pensée, d'une lutte, d'un mouvement. Ah, le désigner, c'est facile, hein, le méchant, on sait qui c'est. Mais les modalités choisies pour le combattre, du dialogue à la violence armée, font aussi partie des choix opérés. Et de là découle le devenir de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on va en faire si on le bat ? Et ça, si on ne s'est pas posé la question avant, c'est rapidement le bordel ensuite. Cette question est rarement posée, et encore plus rarement établie une fois pour toutes. Moi, je me dis, si, globalement, les gens qui combattent le capitalisme, ben, ils échouent à le combattre, on voit bien que c'est plutôt le capitalisme qui gagne. N'est-ce pas aussi parce qu'on ne s'est jamais posé la question, que ferons-nous les capitalistes, concrètement ? Doivent-ils être exécutés sommairement, parqués dans des goulags, intégrés dans des assemblées citoyennes ? On ne sait pas, parce que rien ne dit que le capitaliste va changer d'avis, hein, un jour ou l'autre, il va peut-être rester. Donc il va rester un ennemi, qu'est-ce qu'on en fait? Et si on n'a pas tranché ça, notre projet politique, il n'est pas clair et il ne marche pas. Voilà, et je pense que j'ai raison, quoi. Après, je n'ai pas de solutions qui vont plus loin, hein. Attention, je ne suis pas un prophète non plus. Ces questions, notons-le au passage, le capitalisme, lui, il se les est posées, et il a déterminé des réponses dans la longue durée qui ont entraîné la mise en place de la civilisation des loisirs. Regardez un peu le truc. En regardant et en analysant Walking Dead, je m'inscris dans le schéma de domination prévu pour moi et mes semblables. Une espèce de gauchiste qui voudrait tout changer, là. Non, ils ont prévu, pour m'occuper, une série interminable comme Walking Dead, qui me permet, en fait, de rester dans l'ordre établi tout en le critiquant. Pas mal, non? Ils sont plus malins que nous. Et les gens vont me dire « Ouais, mais t'as qu'à pas regarder des conneries comme ça, t'as qu'à regarder des vrais films politiques et sociaux. » Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que si je vais à une soirée débat autour de Ken Loach ou de Yanis Youbountas, en fait, ça revient au même. Et finalement, moi, j'aime bien les zombies aussi, quoi. Voilà. Un hommage final aux zombies avec Obituary. Slowly Rewrote, morceau mythologique de death metal, évidemment. Le titre traduit, ça veut dire « Lentement, nous pourrissons ». Yeah! Voilà, c'était le dernier morceau de cette émission, Slowly We Rot, Obituary. Je trouve que c'était vraiment, vraiment adapté. Ça en est fini pour cette analyse poussée de Walking Dead. Là, c'est assez drôle parce que Monsieur Pop est arrivé pendant l'enregistrement de l'émission et voilà, donc c'est lui maintenant qui va pouvoir infecter le studio avec ses morceaux mélodieux, n'est-ce pas? Voilà, c'est aussi ça la laïcité radiophonique, Monsieur Pop qui succède à Monsieur Metal, et ainsi va le monde, voilà. C'est tout ce que j'ai voulu dire à propos de Walking Dead, qui est en fait seulement la mise en scène de l'instabilité, du caractère temporaire, de toutes les solutions collectives. Et qui le pousse, ce processus-là, son extrême logique, bien plus, je trouve, que dans la plupart des réflexions politiques du monde réel, avec en plus des méchants zombies, et c'est super sympa. Moi, je trouve que les potentialités de la fiction littéraire sont ici vraiment exploitées, largement autant que dans beaucoup de fictions littéraires ou cinématographiques. Voilà. Walking Dead nous raconte pas seulement une histoire et des péripéties avec des vilains zombies, mais elle nous tend un miroir fidèle parce que déformant et fantaisiste par rapport à notre rapport justement à la collectivité. En utilisant la longueur de temps infinie que permet le format série. Voilà. Et donc, eh bien, si vous y êtes pas mis, si vous est donné envie, tant mieux. Et puis, à bientôt, les zombies. Salut, c'était ArcelorMetal. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.